Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu et nous lirons ce soir dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20 et au verset 20. Deux Rois, chapitre 20, verset 20. Voilà un passage qui résume les actions importantes du règne d'Ézéchias, un roi fidèle, reconnu comme tel. Nous lisons là le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères. Nous arrêtons là. Voilà. Dans le passage justement auquel il fait référence là, c'est-à-dire le deuxième livre des chroniques, chapitre 32, au verset 30, nous ne lirons pas cela, mais je donne juste la référence, jusqu'au verset 33, on nous dit qu'il fut honoré à sa mort plus qu'aucun roi, et un signe d'honneur, on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. C'est en fait le seul roi après David dont il nous est dit cela. Et pour quelles raisons? Eh bien, nous sont donnés dans les deux passages, c'est-à-dire celui des chroniques et celui que nous venons de lire. C'est-à-dire déjà, il a fait des exploits, comme on le voit, verset 20. Et puis remarquez ce qui est marqué là. Il fit l'étang de Siloé, il fit l'aqueduc, il amena les eaux dans la ville. Et puis il nous a dit encore dans 2 Chroniques 32, verset 32, qu'il fit des œuvres de piété. Vous remarquez que sur les cinq raisons qui sont ainsi données, il y en a trois qui concernent l'amener d'eau dans la ville. Ce qu'on pourrait considérer comme un détail. Dans tout son règne, il a fait des choses qui pourraient paraître plus grandes. En tout cas, j'imagine qu'un chroniqueur royal aurait certainement dit cela, mais comme peut-être, je ne sais pas, une anecdote, une petite réalisation parmi toutes celles qu'il a eues. Mais la parole de Dieu insiste beaucoup, justement, sur cela, cette histoire d'amener l'eau dans la ville. Donc, la piscine de Siloé donc, se trouve à Jérusalem, à proximité de ce qui était autrefois, à l'époque, le jardin royal. Et c'est un réservoir rectangulaire qui mesure à peu près 17 mètres de long, sur 5,5 de large, presque 6 de profondeur. Et l'eau jaillit d'abord dans un petit bassin qui est creusé en haut, dans le rocher, au-dessus. Et c'est là que se trouve l'arrivée du canal qui amène l'eau de Guillon. C'est-à-dire Guillon, c'est l'actuelle fontaine de la Vierge. Et la partie inférieure donc, du réservoir, en bas, lorsque l'eau est sortie de ce premier bassin, elle atterrit dans le grand réservoir. Et donc, à la partie inférieure du réservoir, l'eau coule dans une petite canalisation qui traverse la route et qui va irriguer les jardins de la vallée du Cédron. Alors, vous imaginez la chose, c'est-à-dire que vous avez en haut la fameuse source de Guillon. Ensuite, son eau passe dans un canal creusé dans le roc en forme de tunnel. C'est ce canal qui date du temps d'Ézéchias. De l'autre côté, elle jaillit dans un petit bassin qui est creusé dans le roc. Puis, de là, elle coule dans la piscine de Siloé. Et au bas de la piscine, la canalisation d'évacuation et d'irrigation des jardins du Cédron. Voilà. Et avant d'aller directement dans le sujet de notre message, laissez-moi vous décrire une découverte qu'a faite un jeune garçon. Et ça, c'était en 1880, sur le mur du tunnel, du fameux tunnel d'amener d'eau dont je vous ai parlé. Donc, il a pénétré, lui, par l'extrémité du tunnel, du côté de Siloé, et il a découvert, là, quelque chose qu'on n'avait jamais remarqué auparavant, c'est-à-dire une inscription de 6 lignes qui est gravée de manière très régulière, en hébreu très pur. Et on pense qu'effectivement, cette inscription datait du temps d'Ézéchias. L'érosion a effacé une partie des trois premières lignes, mais le sens est évident. Et voici donc la traduction. La traduction, c'est « Le percement est terminé. Voici le récit du percement. Pendant qu'il maniait le pic, chacun l'un vers l'autre, et quand il ne resta plus que trois coudées à creuser, ils entendirent la voix de l'un appelant l'autre, car il y avait une crevasse à main droite. » Et le jour du percement, les mineurs creusèrent, pic contre pic, et l'eau coula depuis la source jusqu'à la piscine, sur une distance de 1200 coudées, et l'épaisseur du rocher au-dessus de la tête des mineurs était de 100 coudées. Voilà, donc ça c'est le compte-rendu de cette entreprise. Et ce lieu admirable, qui est mentionné en plusieurs occasions dans la parole de Dieu, est pour nous rempli d'illustrations importantes. Vous savez, à Jérusalem, il y a beaucoup de choses dont on pourrait tirer des leçons spirituelles. Mais nous voulons en parler parce que la parole de Dieu parle quand même spécialement de ces endroits. Déjà, nous parlerons en premier de la source. Cette source est une image de Christ pour nous parce que Christ, c'est la source. Ensuite, nous parlerons de ce canal qui mène de la source au réservoir et qui est une image du brisement et quelque part du percement de notre cœur pour que Dieu puisse y faire couler l'eau de la vie. Enfin, nous parlerons de l'étang, du réservoir de Siloé qui est l'image de ce que la vie d'un croyant doit être. Alors parlons un petit peu déjà de cette source qui est une image de Christ. Tout d'abord, par la façon dont elle est appelée jusqu'à aujourd'hui, elle est appelée la source de la Vierge. Et ça nous parle de Jésus, né de la Vierge Marie, après avoir été conçu par la vertu du Saint-Esprit, le seul qui soit à la fois homme et Dieu, véritablement homme et véritablement Dieu, à cause de cela. Amen. Ensuite, par la signification de son nom, dans la Bible aussi, parce que Guillon, ça veut dire source jaillissante. Source jaillissante, et Jésus est en effet la source de l'eau de la vie. La source jaillissant continuellement. C'est pour ça que ce soir, nous pouvons être remplis d'espérance. Alléluia. Hein ? C'est une source de pardon et de délivrance qui jaillit. C'est une source de vie véritable, une source de joie, une source de paix qui jaillit encore aujourd'hui. C'est une source de guérison, c'est une source de soins, c'est une source de soulagement, béni soit son nom. C'est une source de libération, une source de renouvellement qui jaillit encore aujourd'hui, une source de force, une source de victoire, une source de vision et de gloire divine. Alléluia. Et quels que soient nos besoins ce soir, nous pouvons venir à cette source. Nous pouvons y puiser, nous pouvons en boire, les assoiffés seront désaltérés, notre soif sera étanchée et la source ne sera pas épuisée, loin de là. Alléluia. Amen. Et puis, le rocher percé, nous l'avons dit, c'est pour nous ici l'image du cœur du chrétien. Ce rocher est dur, vous savez. Ce rocher est bien dur. Hein ? Quels grands efforts il a fallu pour qu'il puisse être percé. Et ceci nous parle et nous rappelle la dureté de notre propre cœur. Quels grands efforts il faut pour qu'il soit brisé. Ce n'est pas là l'œuvre d'un moment. Souvent, il faut bien des années. Et malheureusement, souvent, il faut aussi de douloureuses expériences pour que ce brisement puisse se faire. Vous savez, certains ont été guéris, mais leur cœur n'a peut-être pas été percé. Certains ont pu être baptisés et leur cœur n'était pas encore percé. Et je dirais même, certains peuvent être baptisés du Saint-Esprit et pourtant leur cœur n'était pas encore vraiment percé. Hein. Et puis, il y en a même qui peuvent prophétiser et leur cœur n'est toujours pas percé. C'est vrai, ce sont des choses qui existent. Et même, bien, certains peuvent être là dans cette assemblée depuis longtemps et leur cœur n'est encore pas percé. C'est une grande œuvre, vous savez, qu'une vraie conversion. C'est une grande œuvre, hein. Mais quand elle est achevée, alors l'eau peut couler. Alléluia. Alors l'eau plus pure peut couler. Et voyez la façon dont ce canal a été percé à travers le rocher. C'est un plan général en forme de S, hein, c'est pas tout droit. C'est une longueur de 1750 pieds, c'est-à-dire près de 600 mètres de long. Et c'est un percement qui a été entrepris simultanément par les deux extrémités. Ils ont commencé à creuser comme ça, de chaque côté. Que de difficultés, parce qu'il fallait déjà tomber pile. Hein, il fallait aller ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop haut, ni trop bas. Il fallait que la pente générale du canal puisse permettre à l'eau de couler doucement, pas trop raide, parce qu'il fallait économiser, pas trop lente non plus, pour qu'il y ait du début. Et il a certainement fallu un architecte tout à fait remarquable, sans parler de la valeur des ouvriers, pour réussir la chose, surtout qu'à l'époque, on ne possédait pas les instruments perfectionnés qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ce fut un exploit sur le plan technique, et c'est pour cela aussi que l'inscription qu'on a trouvée, on a conservé la mémoire. Et soyez persuadés qu'il y a au moins autant de difficultés pour nous, en ce qui nous concerne, pour que notre cœur soit percé et utilisable pour que la vie du Seigneur puisse y couler. Parce que notre cœur aussi doit être attaqué des deux côtés, vous savez. Il faut que nous fassions notre part et que l'Esprit de Dieu fasse aussi sa part. Souvenons-nous que nous sommes toujours ouvriers avec Dieu. Toujours comme cela que doit se faire. Et puis, en plus, il faut que le travail corresponde exactement, mes amis. Hein. Il n'y a pas de conversion à peu près. Il n'y a pas de presque chrétien. Hein. Il faut que ça tombe juste. Hein. On est converti ou on n'est pas converti. On est chrétien ou on ne l'est pas. On est fidèle ou on ne l'est pas. On est froid ou on est brûlant, mais jamais tiède. Et il faut que nous nous soumettions entièrement aux directions de l'architecte divin. À toutes ces instructions, si l'architecte a dit à l'ouvrier qui devait attaquer la falaise d'un côté ou le rocher d'un côté, il faut que tu tailles exactement le tunnel, mettons, je ne sais pas moi, à 15 degrés de tel angle dans le rocher. Voilà. Et que l'ouvrier se dit, je vais tailler à 16 ou à 17, pour un ou deux degrés, ça n'a pas d'importance. Ça n'a peut-être pas d'importance pour les trois premiers mètres, mais... Quand ça commence à se creuser, si vous faites que de l'à peu près, puis qu'au début c'est comme ça, au bout d'un moment c'est comme ça, et lorsque c'est au mur là-bas, c'est combien ? C'est comment ? Et puis ça va encore aller plus loin que ça. Sur 500 mètres, il aurait largement passé à côté, voyez-vous ? Il fallait que ce soit exact. Et dans la situation du chrétien, il faut que nous ayons aussi à cœur d'obéir exactement aux ordres du Seigneur. Ne résister à la parole de Dieu sur aucun point, même sur un petit. Vous savez, il n'y a pas de petite négligence. Quelqu'un qui commence à mettre un seul verset entre parenthèses, il est parti pour manquer le but, d'une façon certaine. Je crois qu'il faut vraiment se dire cela. Ça veut dire qu'on est encore là sur un réel problème de conversion. Pourquoi ? Parce qu'on commence déjà à se permettre de juger la parole de Dieu au lieu de se laisser juger par elle. Et ça, c'est un problème. Obéissons à la parole du Seigneur en tout point, sans discuter, si nous voulons être sauvés. L'Écriture nous dit qu'il nous faut travailler à notre salut avec crainte et avec tremblement, pas à cause du Seigneur, pas trembler de ce que le Seigneur ne va pas nous secourir, mais à cause de nous, Parce que nous, vous savez, nous avons besoin continuellement de veiller sur nous-mêmes. Seigneur Jésus a été très clair, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature charnelle, elle est bien faible. Et ça, c'est la réalité. C'est à cause de ça qu'on doit trembler. C'est à cause de nous-mêmes, notre problème à nous. Mais ceux qui se confient au Seigneur et qui s'attachent à sa parole, ceux-là peuvent être dans la sécurité et dans la paix. Amen. Et vous remarquez une autre chose aussi. C'est que ce canal pouvait être facilement obstrué. En fait, il ne mesure qu'une 60aine de centimètres de large. C'est très peu pour un approvisionnement en eau d'une telle importance. Donc, parce que souvent, c'est cette source qui a été le salut de cette ville de Jérusalem en ce temps-là. Et ça veut dire qu'il faut qu'on garde notre cœur, mes frères et sœurs, qu'on garde nos amis, pour qu'il n'y ait pas, nos âmes, pardon, pour qu'il n'y ait pas aucune obstruction, voyez-vous. L'obstruction, elle peut si facilement venir. Je me souvenais, j'ai lu le témoignage de cette ménagère qui expliquait qu'elle avait... Elle avait découvert que nettoyer sa maison, elle aimait bien nettoyer sa maison dans tous les recoins. Et un jour, elle s'est aperçue que, si elle savait bien ranger un peu les choses d'une certaine façon, bien ordonner et tout, elle pouvait faire son ménage moins souvent, voyez-vous. Et puis, donc, elle s'est mise à faire comme ça. Et puis, c'était en hiver, donc ça allait, ça a duré un temps parce qu'il n'y a pas encore trop de soleil. Mais un jour... Le soleil a commencé à vraiment arriver, et là, elle s'aperçut de quoi ? Que la maison était quand même sale et qu'elle était quand même poussiéreuse. À la lumière du soleil, elle a vu les choses de cette manière-là. Et vous savez, à l'époque du Seigneur Jésus, les pharisiens, c'était les hypocrites. Pourquoi ? Parce qu'ils se concentraient sur les apparences de la sainteté et ils négligeaient la sainteté de leur propre cœur. C'était ça, le problème. Et quand la lumière de Jésus brillait sur eux, qu'elle révélait la vérité. Sur leurs activités, leurs actions religieuses extérieures. Et Jésus ne disait pas que ces actions extérieures étaient nécessairement mauvaises, mais il disait qu'elles servaient à masquer leur méchanceté, leur mauvais cœur. Et pour eux, le nettoyage intérieur de la maison se faisait attendre depuis longtemps. C'était ça le problème. Et sauver les apparences de notre maison, je dirais que ce n'est pas si mal. Mais prétendre que notre cœur est pur, ça c'est pas bien. Et c'est vrai que seuls ceux qui ont le cœur purifié, seuls ceux-là pourront accueillir Jésus avec assurance lorsqu'il reviendra. Voyez-vous, il faut que nous veillions à notre cœur. C'est quelqu'un qui a dit « au cœur de la sainteté, il y a la sainteté du cœur. Au cœur de la sainteté, il y a la sainteté du cœur. » Et c'est important que nous puissions aussi saisir cela et le réaliser. Un petit obstacle peut suffire. raconte l'histoire de ce petit garçon qui s'était querellé avec son frère, voilà, et ça l'avait rendu amer. Le voilà qui en voulait à son frère, et quand son frère a voulu régler les choses, il n'a rien voulu savoir, il a refusé de l'écouter, il ne lui a pas parlé toute la journée, il lui a fait la tête. Bon, la maman était une famille chrétienne, hein. Vous voyez, dans la famille chrétienne, ce n'est pas toujours le ciel sur la terre non plus. Hein. Donc, l'heure du coucher est venue. La mère dit au petit garçon, mais écoute, tu ne crois pas que tu devrais pardonner à ton frère avant de t'endormir, hein. Rappelle-toi que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Et le gamin, il avait l'air perplexe. Et après avoir réfléchi, à un moment, il a dit, dis-moi, maman, il n'y aurait pas moyen d'empêcher le soleil de se coucher. Voilà. Voilà. Alors, vous savez, c'est des choses qui vont arriver. Hein. Des gens, ils ont, les chrétiens, ils peuvent garder une rancune des fois contre quelqu'un. Et puis voilà. Puis alors, peut-être que toi, déjà, le Seigneur certainement va leur parler. Alors, on ne peut pas changer le cœur d'une autre personne. Mais c'est vrai que nous sommes responsables de notre propre attitude. Et la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein, c'est Éphésiens 4, verset 32. On ne peut pas empêcher le soleil de se coucher, mais on peut l'empêcher de se coucher sur notre colère. Ça, c'est sûr, et ça veut dire que nous devons pardonner et que le Seigneur veut nous secourir en cela. Amen. Amen. Voilà, veillons à donc avoir ce canal de notre cœur qui reste ouvert pour que Dieu puisse y, le Seigneur puisse y faire couler sa vie. Amen. Et arrivons-en maintenant à ce fameux étang, ce réservoir de Siloé, une image de ce que notre vie doit être. Et remarquons d'abord que l'eau jaillissait dans un petit bassin qui se trouvait juste à la sortie du canal. Hein, ce petit bassin était creusé en haut dans le roc. Et de là, l'eau s'écoulait ensuite dans le grand réservoir plus bas. Je dirais que ce petit bassin, ça peut représenter notre esprit. Mais vous savez, un esprit de louange, un esprit d'adoration. Celui qui a un esprit de louange et d'adoration, celui qui se détache des choses de la terre pour s'attacher aux choses d'en haut, eh bien, c'est là que l'eau de la vie va pouvoir jaillir en abondance. Amen. Et là, je dois encore donner ce beau témoignage que racontait un serviteur de Dieu qui était parti pour visiter une dame donc dans un hospice, une dame qu'il allait la voir régulièrement, puis elle était très âgée, elle était aveugle, alitée depuis 7 ans, mais toujours douce et radieuse. Et un jour, elle lui a raconté un rêve qu'elle avait fait. Je pense que c'était un songe. Donc, elle était dans un jardin magnifique et elle expliquait que la pelouse était là, ça formait vraiment un tapis luxuriant sous ses pieds. Et puis, le parfum des fleurs remplissait l'atmosphère. Et puis, elle s'est jetée à genoux, transportée par la scène. Et puis, voilà que ses pensées étaient bien sûr dirigées vers le ciel. Et puis là, elle a éprouvé le besoin de prier pour son pasteur et puis pour d'autres. Et quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans son lit, là, comme cela. Hein. Et puis, le sourire aux lèvres, elle a dit après au serviteur de Dieu, « Vous savez, frère, donc, au début, j'étais un peu déçu. » Mais dans un sens, le rêve était vrai, parce que ce vieux lit a été un jardin de prière pendant les 7 dernières années. Elle a pris cela de cette manière-là. La prière avait fait de ce lieu un endroit de sainteté, de méditation et de bénédiction. Vous savez combien la prière a souvent fait la différence, hein ? Rappelez-vous, Pierre était en prison. Mais ce qui a fait la différence, c'est tous ceux qui étaient en train de prier, qui ne cessaient, l'assemblée qui ne cessait d'adresser les prières à Dieu. Hein, nous voyons, mais ce n'est pas toujours évident de prier, parce que l'intercession, ça nécessite aussi une certaine discipline de notre part. Ça nécessite un engagement, bien sûr. Hein, et il arrive souvent que Dieu soit obligé de nous mettre à genoux par la force des circonstances. Hein, mais il est marqué, « Ayez continuellement recours à l'Éternel et à son appui. » Alléluia. « Cherchez continuellement sa face. » Dans 1 Corinthiens chapitre 16 et au verset 11. Donc, nous avons dit, vous avez ce petit bassin, ce premier petit bassin qui était là en hauteur. Et ensuite, le réservoir lui-même, donc, qui bénéficiait après de cette eau qui arrivait de là, se trouvait, est-il dit, à proximité du jardin royal. Et ce jardin royal, ça nous parle, je crois. Ça peut nous parler du paradis de Dieu. Hein. Paradis, la présence du Seigneur, la présence du roi. Le jardin royal, et là, toutes les bénédictions que nous avons en lui. Hein. Ce jardin de David était rempli de bons fruits, de fruits excellents, hein, comme on le voit dans le Cantique des Cantiques. Hein, j'ai expliqué un petit peu cela, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et de la même façon, le jardin de Dieu est rempli de ces fruits de l'Esprit qui ont cet étang de Siloé dans leur vie. Amen. Hein. Alors cherchons à être remplis de la vie de Christ. Et vous serez alors tout près de ce jardin de délices. Et bientôt, bientôt, nous y serons introduits d'une façon définitive. Béni soit notre Dieu. Amen. Et voyez encore que l'eau sortait de cet étang de Siloé pour irriguer, nous a-t-il dit, les jardins du Cédron. L'eau ne restait pas dans le réservoir de Siloé. Et si nous voulons être bénis, eh bien c'est pareil. Il faut que la vie de Christ en nous ne soit pas pour nous seuls. Il faut que nous puissions la partager. Il faut qu'elle soit en nous, c'est vrai. Mais ensuite, il faut qu'elle aille irriguer d'autres vies. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est marqué, il est parlé de ceux qui ont méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Voilà. Mais ça veut dire qu'elles coulent quand même. Elles coulent doucement. Mais elles coulent quand même, hein, elles se répandent quand même, elles ne restent pas. Un chrétien est fait pour partager. Je dirais un chrétien est fait pour annoncer l'évangile, pour témoigner ce que le Seigneur fait pour lui, de la même façon qu'une balle est faite pour rouler, de la même façon qu'un oiseau est fait pour voler, de la même façon qu'un bateau est fait pour flotter, hein, si vous prenez des images. Et c'est vrai que si on n'évangélise pas, ben écoutez, quelque part, on est atteint d'un problème, d'une maladie spirituelle. Dans les eaux de Siloé, dans la piscine de Siloé, les eaux sont claires. Pourquoi ? Bien parce qu'elles ne sont pas stagnantes, voyez-vous. À partir du moment où les eaux deviennent stagnantes, à partir de ce moment-là, ben on est obligé de mettre des produits dedans, comme dans les piscines ou que sais-je. Hein. Mais si nous voulons véritablement que cette eau soit toujours pure, qu'elle soit toujours vivifiante, il est important que nous puissions la laisser couler, la laisser se répandre, la laisser aller encore. Et c'est aussi comme cela que Dieu bénit. Hein. C'est toujours le même principe. Si le paysan se disait, ben, pff, là j'ai mes graines là pour semer, mais et c'est vrai, on me demande d'aller les répandre, mais elles vont être perdues quoi. Hein si je les répands, je ne les aurai plus. Ben oui, peut-être. Mais si tu ne les répands pas, eh ben, tu n'auras pas de moisson. Hein. Si tu veux une moisson, il faut que tu les répandes là. Il faut que tu les laisses partir, que tu les même que non seulement que tu les laisses partir, mais que tu les mettes toi-même dans la terre. Hein. Et puis voilà, il faut que tu sois prêt à avoir la foi. Que, c'est une confiance qui est facilement placée parce qu'elle est basée sur une expérience multiséculaire. Hein, donc, c'est une nécessité. Il faut que tu donnes pour recevoir. Et le Seigneur Jésus lui-même prend toujours ce même principe. Nous aussi, si nous voulons être bénis, ce n'est pas de vouloir être bénis d'abord, être donné après. C'est l'inverse, le principe. Hein, c'est de donner d'abord, de se donner d'abord, et puis le Seigneur, après, pourvoit, le Seigneur secourt, le Seigneur soutient, le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur donne une abondante moisson, puisque c'est là sa promesse, là encore, multipliée tout au long de la parole de Dieu. Amen. Enfin, considérez une dernière remarque, en tout cas, avant la conclusion, c'est que le Seigneur a envoyé un jour un aveugle-né au réservoir de Siloé. Hein, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 7, verset 11, ça nous est dit. Et nous souvenons que cet aveugle a été guéri. Bien sûr, c'est à cause de sa foi qu'il a été guéri, mais certainement le réservoir de Siloé était aussi dans l'intention du Seigneur pour nous rappeler les bonnes leçons qu'il y a à en tirer. Il y a eu une vertu guérissante à cette eau à ce moment-là. Et le Seigneur veut aussi, de la même façon, envoyer des aveugles vers nous pour que nous puissions être des moyens de leur guérison. Peut-être des aveugles physiques, peut-être surtout des aveugles spirituels, ça c'est sûr. Hein. Hélas, comme il y en a tant. Hein. Mais là encore, vous savez, Siloé, le mot Siloé, ça veut dire envoyer. Hein. Et nous aussi, nous sommes envoyés. Et si nous sommes conscients que nous sommes envoyés, le Seigneur a dit, voici, je vous envoie. Hein. Si nous sommes conscients que nous sommes envoyés, alors effectivement, le Seigneur va aussi nous envoyer des aveugles spirituels pour que nous puissions être aussi des moyens de la révélation, de son amour, de son salut pour eux, qu'ils puissent avoir leurs yeux spirituels ouverts également. Béni soit Dieu. Amen. Alors en conclusion, eh bien, ne méprisons pas justement, comme il est dit à l'inverse de ce qui est dit dans Ésaïe 8, verset 6, ne méprisons pas les eaux de Siloé qui coulent doucement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, quelque part, le moyen d'agir habituel de Dieu. Hein ? Donc, pourquoi faire ? Eh bien, tout d'abord, rappelons-nous la première, trois petits rappels en conclusion. La première, la nécessité d'avoir un cœur qui se laisse percer par le Seigneur et que nous aussi, nous participions activement à ce travail. Amen. La deuxième chose, vouloir obéir très exactement au Seigneur et à sa parole pour que cette œuvre se fasse réellement en nous. Hein. Et puis la dernière chose, garder notre cœur aussi avec soin pour que le péché ne puisse obstruer et que la vie divine puisse couler en nous et par nous. Béni soit notre Dieu. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur. Te remercions pour ce grand et précieux désir qui est en toi de répandre ta vie sur nous et en nous, Seigneur, et de la faire couler en abondance, de la faire couler en plénitude. Et non seulement cela, mais que nous puissions être aussi des moyens de bénédiction autour de nous. Ce que nous pouvons faire, d'ailleurs, par la prière ce soir déjà, et que ce que tu veux nous donner de faire aussi autour de nous ensuite, par notre témoignage, par nos attitudes, par nos actions, par nos paroles, Seigneur. Merci notre Dieu, béni sois-tu, c'est toi qui conduis encore toutes choses pour cela. Toi qui agis aussi, c'est toi le divin architecte, Seigneur, qui veut agir aussi dans nos cœurs et dans nos vies pour que ce percement puisse se faire de la meilleure manière, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons être des serviteurs et des servantes obéissants, Seigneur. Nous avons à cœur d'obéir à ta parole dans son entier, Seigneur, sans en laisser tomber quoi que ce soit, que d'un côté ou d'un autre. Merci, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu pour ta grande grâce. Béni sois-tu pour ton œuvre fidèle et puissante. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Voilà, bien, les annonces. D'abord, voilà, la prédication, le témoignage en ligne, c'est toujours sur le site de l'Église, vendredi à 20h15. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Le culte dimanche à 8h30 puis à 10h45, inscrivez-vous pour y participer sans tarder s'il vous plaît. Sinon le camp de jeunes à Châlons, donc c'est la semaine prochaine du 2 au 5 août, priez pour ce camp de jeunes hein, pour qu'il puisse aussi avoir un temps favorable et que ça être protégé, préservé et que ça puisse être un moyen de bénédiction pour tous ceux qui seront là. Et il est bon de s'y inscrire sans plus tarder. Donc les enfants, donc les jeunes à partir de 11 ans, donc peuvent participer à ce camp de jeunes. Sinon, je vous rappelle que le mercredi soir, on a une séance de réponses, questions bibliques et réponses, à 19h15 pour ceux qui veulent y participer. Je pose même la question si on peut avancer à 19h, parce qu'il y a beaucoup de questions. On va laisser peut-être encore 19h15 pour l'instant. Hein. Ne bougeons pas trop vite. Voilà. Que Dieu vous bénisse.